Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le Player Club. Et oui, ce soir c'est Alex le serveur, c'est moi qui vous présente cette émission de radio jeux vidéo parce que moi aussi j'ai envie un petit peu de parler de jeux vidéo de temps en temps avec vous et pas seulement de culture dans Halo Central par exemple ou de télé dans TVNR. Je fais déjà la petite promotion. Inks doit déjà être en train de péter un plomb. Ce soir nous allons parler des expatriés au Canada qui bossent dans l'industrie du jeu vidéo. Pour cela j'ai autour de moi Antoine Claire Renaud. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Et Nicolas Padovani. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir, mais vous n'êtes pas Inks, ça me perturbe un peu.
Ah, mais c'est pas grave, tu verras, ça va être sympa quand même. Vous nous écoutez, vous pouvez bien sûr réagir en direct grâce à Twitter, grâce au hashtag LePlayerClub. Tout de suite, l'interview.
De 21h à 22h, le Player Club.
Ah, on fait les choses bien ici, on a des jolis petits jingles. Alors tout d'abord, mes chers amis Antoine et Nicolas, je vais vous demander de vous présenter. Antoine, peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et quand est-ce que tu es parti au Canada?
Alors, je suis parti en 2011, janvier 2011, pour travailler tout simplement. Je suis parti en PVT, mais j'ai eu la chance d'avoir un emploi qui m'attendait en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que passionné de jeux vidéo depuis tout le temps. Hein. Bon, ça c'est un peu normal si t'as envie de bosser dans le milieu. Mais donc à Montréal, tous les ans, il y a le Sommet international du jeu qui se déroule en novembre et tous les ans, ils cherchent des bénévoles. Et j'y suis allé en novembre 2010 pour faire un peu le tour des stands et tout pour justement aider en tant que bénévole et j'ai pu rencontrer une entreprise sur place qui s'appelait Enzyme pour être testeur linguistique. J'ai rempli une candidature sur place et puis un moment après ils m'ont appelé. En plus, comme je faisais les papiers de mon côté, ça les a bien arrangés. Et puis après, je suis arrivé fin janvier 2011. Et puis j'avais mon boulot qui m'attendait, quoi. Et puis donc après ça, j'ai enchaîné un autre boulot dans le test linguistique toujours. Et après, j'ai fait un peu de test à Eidos Montréal. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, d'en parler tout à l'heure. Et là, j'ai lancé ma maison d'édition, les éditions Book, pour parler un peu d'histoire du jeu vidéo avec des compatriotes québécois pour avoir leur point de vue sur l'industrie ici et puis aussi sur l'histoire et la culture du jeu vidéo.
Alors, ta maison d'édition, si je dis pas de bêtises, ça s'écrit B-O-O-C-Q.
Non, B-O-O-Q-C, pour rappeler le Québec, ouais.
D'accord, c'est très important ça, parce qu'on a la radio, donc les gens ne savent pas comment l'écrire, donc B-O-O-Q-C.
B-O-O-Q-C, ouais.
Q-C, pourquoi pas. Du coup, tu es où exactement au Canada?
Alors, moi, je suis situé à Montréal. Ouais,
Montréal.
Donc l'île de Montréal, entre deux rives, enfin entre deux branches du Saint-Laurent. Donc c'est une très belle ville. Hein, c'est faut venir la visiter au moins une fois dans sa vie si on a l'occasion. Et puis, mais après tout le Québec est aussi très joli. Mais Montréal, c'est vraiment une ville que j'adore particulièrement. Ouais.
Alors Saint-Laurent, rien à voir avec Yves, on est d'accord?
Ouais, non, pas du tout, non.
Ok, très bien. Nicolas, quant à toi, peux-tu nous parler de ton parcours?
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, en gros, je suis un étudiant un petit peu éternel. Je reste étudiant pendant un bon moment. Je suis venu au Québec principalement pour les études, en fait. Je souhaite devenir un petit peu réalisateur, tout ça. Je savais que le Québec avait des entreprises du jeu vidéo, tout ça. Mais j'étais pas sûr si je voulais vraiment bosser là-dedans. Il y a une opportunité qui est arrivée en fait à l'été 2013. Je suis arrivé ici en juillet 2012 il y a une opportunité de job de testeur au QA qui est venu l'été 2013 il me semble à Activision. Et j'ai commencé à bosser là-bas, puis c'était formidable, puis je suis revenu l'été prochain et puis là j'y retourne l'été qui vient là. Puis c'est ça. Et je sais pas si je vais continuer à bosser dans le jeu vidéo plus tard, parce que j'aime bien être réalisateur, j'aime bien faire du montage, etc. Voilà.
Bah, t'as qu'à bosser pour David Cage en même temps, tu pourras faire.
Non. non, ça va.
Alors sur Twitter, il y a Chitouné qui nous dit « Québec, on vous aime ici en Charente-Maritime, les anciens cousins, ils vous font coucou ». N'hésitez pas à réagir, bien sûr, hashtag le Player Club sur Twitter. Alors, pourquoi vous êtes parti? Je vais commencer avec toi, Antoine. Pourquoi partir? Est-ce que c'était pour des raisons économiques, une envie personnelle, une mutation? C'était quoi? C'était vraiment... Quel était le moteur ou une envie d'aventure? Je ne sais pas.
Donc j'ai fait le diplôme en game design de Dizard Digital à Paris. Donc le jeu vidéo, je voulais bosser dedans. Donc ça, c'était sûr, quoi. Il y avait pas d'autre alternative. Hein. Pourtant, j'ai essayé d'autres trucs, genre la banque et tout ça, mais ça m'a vraiment pas plu. Après avoir fini ma formation en août 2010, j'ai cherché du boulot, et puis ben je pense que comme vous le devez le savoir, pour trouver du boulot en France, ils demandent toujours d'avoir de l'expérience. Donc quand on est junior, c'est assez compliqué. Et puis bah justement après je me suis dit j'allais partir visiter Montréal et puis être bénévole justement au sommet du jeu. Et suite à ça, bah j'ai eu très rapidement après une offre d'emploi qui bizarrement s'est mise juste à côté d'une autre offre que j'avais eue d'Ubisoft. Donc au final, tu sais, tu cherches du boulot pendant 6 mois, tu trouves rien et puis après t'en as plusieurs qui arrivent en même temps, quoi. Et là j'avais le choix en gros entre devenir testeur linguistique à Sainte-Adèle, donc un peu plus haut que Montréal, ou être testeur sur Just Dance à Paris. Donc il y a un des deux qui m'a fait plus rêver que l'autre, et donc j'ai préféré choisir le Québec, quoi.
Je vois pas pourquoi ça ne te fait pas rêver d'être testeur sur Just Dance, sincèrement.
Oh. Ouais, Just Dance, voilà, c'est bien, hein, après, le jeu est très bien et tout, mais...
Ça pourrait te faire des pectoraux, tu vois, à force de bouger la Wiimote, tout ça, ça muscle quand même.
Puis avec Kinect et tout, en plus, c'était...
Et est-ce que tu connaissais du coup le Canada avant, ou c'était vraiment terra incognita, grande aventure?
Avant de partir définitivement, donc j'avais pris le temps de connaître en novembre 2010, hein, mais un tout petit peu, quoi. La ville où je suis parti en arrivant, donc dans les Laurentides, une région un peu au nord de Montréal, mais enfin dès qu'on dit au nord de Montréal, on perd déjà des degrés, hein, donc c'était l'hiver est assez violent, surtout quand t'arrives en janvier, quoi. Mais l'hiver québécois, je connaissais pas du tout, et là ça a été la grande aventure, quoi.
Ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à une grande étendue blanche qui est là pendant 6 mois de l'année, quoi. Et justement, c'est pas des blagues, parce que ça nous arrive même ici. Et puis j'imagine toi, Nicolas, ça doit t'arriver souvent, ça doit durer encore plus longtemps.
Un petit peu, ouais.
Mais vous savez, moi je viens du nord de la France, donc ça m'impressionne même pas, vous voyez.
Allez, moins 40, je pense que ça t'impressionnera un petit peu, hein.
Voilà, pas y
ça. Ah, mais on peut survivre par cette température, c'est horrible.
Ouais, tu restes pas dehors, hein. Enfin vas-y Nicolas, je sais pas ce que t'en penses. Ouais.
Le moins 40, ça m'est jamais arrivé. Le minimum que j'ai eu, c'était genre moins 25 avec du vent, mais c'est vrai qu'il faut pas rester dehors plus de 5 ou 10 minutes.
Oui, voilà, c'est ça, hein. C'est...
Alors, et toi, Nicolas, est-ce que le départ était motivé par d'autres raisons que juste le boulot? Est-ce que tu voulais t'éloigner un petit peu de la France?
Moi, c'était un peu particulier parce que avant ça, j'ai vécu 8 ans en Polynésie française.
Ah oui, là tout de suite, c'est
exactement.
Ça vend plus de rêves que l'hiver québécois, tu vois, là, c'est ça, bizarrement.
C'est ça. Non, en fait, j'ai eu un baccalauréat scientifique en Polynésie, puis après ça, en fait, il y a juste une université là-bas et il y a pas beaucoup d'opportunités pour les études. Donc on a pensé avec ma famille le Canada. Putain, les études c'est mieux en fait. Il y a des universités qui enseignent directement l'histoire du jeu vidéo, la modélisation 3D, etc. Donc ouais, on y va, quoi. Ça a pris 2 ans d'attente avec l'immigration, tout ça. Mmh. Il a fallu que je fasse une année en France entre temps pour attendre, mais c'est ça. Je suis venu au Québec principalement pour les études, parce que c'est francophone, parce que ils parlent aussi anglais, parce que les gens sont sympas, parce que ouais, c'est ça. Voilà, en gros.
D'accord, très bien. Alors, tu disais justement, enfin, tu parlais de, comment dire, de l'arrivée au Québec. Est-ce que c'est facile d'entrer sur le territoire et d'y travailler? Alors, moi, je sais, j'ai un ami qui a voulu y aller, il a attendu les fameux, je sais plus exactement le nom que ça, enfin, les cartes, les visas de travail, je vous allais tout expliquer très, très bien. Je crois qu'il y a une espèce de loterie, en fait, faut vraiment être le premier servi, on sait pas trop quand est-ce que ça commence, t'as des quotas, tout ça. Enfin, comment ça se passe concrètement? Quelles sont les démarches à faire quand on veut partir travailler au Canada?
Les démarches, elles sont un petit peu pénible.
Oui.
Je parlerai pas de loterie, mais juste vraiment d'une file d'attente énorme.
Moi, tout le monde veut partir de la France, hein, apparemment. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Le discours qu'on nous sert depuis plusieurs années, comme quoi c'est horrible la France. On y reviendra plus tard, mais
non.
Mais donc.
Non, voilà. Après, justement, je pense que tu t'en rends compte quand tu pars, c'est que t'as peut-être un point de vue sur la France où tu te dis ouais, la France c'est pas si bien que ça. Hein, je me disais la même chose. Hein. Mais après, justement, quand tu pars à l'étranger, je pense dans n'importe quel pays, t'arrives à relativiser. Après.
Et donc, quelles sont ces démarches? Alors, on va revenir aux démarches concrètement, administrativement. Qu'est-ce qu'il faut faire?
On se souvient plus.
Ah bah, c'est malin.
On se souvient plus du tout. C'était.
Bah, moi, je peux raconter mon expérience parce que je pense que ce qu'il fallait faire, je l'ai fait, et ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait aussi. donc, typiquement, je suis parti en PVT, donc le visa ouvert qui durait un an et maintenant qui dure deux ans, donc que tout le monde veut avoir. Donc moi, quand je l'ai eu en 2010, pour remplir les quotas, ça se comptait encore en jours. Là où maintenant, ça se compte en minutes. Par exemple, les derniers PVT qui sont partis là en février, je crois, ou en mars. Le quota de 2250 places a été atteint en 1 minute 50, je crois.
Oh mon Dieu.
Alors que moi, tu vois, ça prenait 15 jours pour remplir tous les quotas. Donc maintenant, on est dans des proportions, c'est un peu fou, quoi. Donc, il y a ce permis qui existe là. Ça, c'est vraiment un permis génial. C'est aussi pour ça que tout le monde le veut et qui est vraiment adapté à tout parce qu'on peut travailler n'importe où, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un permis ouvert. Et après, on a aussi. Après, il y a d'autres choses qui existent. Donc, par exemple, le permis jeune travailleur que j'ai fait à la suite de mon PVT. Celui-là qui est un peu plus complexe à avoir parce qu'il faut avoir une offre d'emploi avant de pouvoir démarrer les démarches. Avant de pouvoir démarrer le processus de demande de visa.
Ah ouais. Donc en fait, ça veut dire que tu es en France et tu dois avoir en gros un job au Canada et devoir dire c'est bon, j'ai mon job, maintenant je veux venir sur le territoire.
Exactement.
Ah,
faut avoir une lettre d'embauche pour dire voilà, j'ai prouvé que j'ai un employeur qui m'attend là-bas, donc maintenant je peux faire ma demande et attendre 6 semaines que ça arrive, quoi.
Eh ben c'est un petit peu c'est complexe quand même comme façon de faire.
Complexe.
Tu penses à quoi?
Bah moi en gros, j'ai pas vraiment, c'est pas un, comment dire, un PVT que tu, c'est un visa. Moi en fait, j'ai plus une demande.
Non, tu veux dire que tu es un immigrant irrégulier et qu'on va t'éjecter du pays?
Non, je suis résident permanent. C'est un petit peu plus poussé, c'est pour ça que ça
c'est
m'a...
c'est le Saint Graal pour tous les immigrants, quoi.
C'est ça, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai attendu longtemps, en fait. Les procédures sont longues, ils vérifient quasiment toute ton histoire, en fait. Ils ont vérifié pour mes parents aussi, ça marchait comme ça. Ils ont vérifié si t'avais ton baccalauréat, ton école, ton collège.
Ah ouais, donc ils prennent pas n'importe qui, en fait.
Non, c'est ça.
Oui, oui, tout à fait.
C'est un peu sélectif, ouais.
Ils vérifient si t'as un casier judiciaire ou pas. Ça, voilà. Ils vont fouiller dans ton histoire, voir si c'est vraiment nickel.
Il y a une visite médicale aussi pour voir si justement tu vas pas être un poids médicalement pour le pays, quoi.
Si t'as pas l'Ebola, un truc comme ça.
Alors non, sur Twitter, il y a Fleur Flawa que j'embrasse qui me dit c'est complexe quand même. Enfin, elle me reprend. Elle dit essaye d'immigrer en France, on verra si tu trouves le Canada complexe. Effectivement, déjà pour passer du Nord à Paris, c'est très très compliqué. On ne me regarde pas vraiment comme un Parisien ici. C'est un petit peu horrible. Donc des démarches un petit peu compliquées, même et donc hyper sélectives, j'ai l'impression.
Ouais.
Ouais, tout à fait. Ouais. Justement pour revenir sur la demande de résidence permanente, c'est quelque chose de très très long. Et puis après, faut savoir que si le Québec rajoute une couche supplémentaire par rapport à ça, c'est que dans toutes les autres provinces, Donc le pays c'est un, le Canada c'est un pays fédéral avec un donc des provinces et un gouvernement fédéral et chaque province qui a son propre gouvernement.
Et déjà jusque là c'est très très simple.
Mais enfin voilà, c'est jusque là justement c'est simple, mais parce que les autres provinces restent enfin par exemple tu fais ta demande de résidence permanente dans une autre province, il va juste falloir que tu sois accepté, on va dire formellement par la province, et après tu peux faire ce qu'on appelle la demande fédérale. Donc là je rentre un peu dans les détails, mais en gros il y a juste une demande à faire dans les autres provinces, là où pour le Québec il y a deux demandes à faire, parce qu'il te faut un papier qui s'appelle le CSQ, donc les certificats de sélection du Québec, qu'il te faut obtenir avant de pouvoir faire la demande au fédéral, donc au niveau du pays en lui-même. Ouais. Et donc ça rajoute non seulement du temps et en plus des frais, quoi. Donc c'est pour ça que être résident permanent, une fois qu'on est résident permanent, après, on est vraiment libre, quoi.
Yes. Alors je vais essayer de traduire parce que c'est extrêmement compliqué, donc je vais mettre un petit peu au niveau des auditeurs. Donc en gros, pour arriver à être maître de la Ligue Pokémon du Québec, il te faut deux badges, c'est ça?
Voilà, exactement, c'est exactement ça. Traduis, tu simplifies très bien ma pensée.
T'as vu ça? Écoute, je ne sais pas pourquoi je pense tellement à Pokémon en ce moment, je ne sais pas trop. Alors on a parlé d'entrée sur le territoire, tout ça, mais alors du coup, est-ce que la vie professionnelle concrètement au Canada, est-ce que c'est vraiment différent par rapport à ce qu'on vit en France? Il y a Chitouné par exemple tout à l'heure qui demandait, les entreprises du jeu vidéo au Québec offrent-elles plus d'avantages aux développeurs qu'en France hors salaire? Donc comment ça se passe concrètement la vie professionnelle au Canada par rapport à la France?
C'est mieux. C'est tellement mieux parce que déjà ils ont ce qu'ils appellent un crédit d'impôt pour les entreprises du jeu vidéo, c'est-à-dire que les entreprises payent moins d'impôts, je crois que c'est ça que ça veut dire.
C'est quelque chose dans ce genre-là, ouais.
On paye moins de charges, je pense.
C'est ça. Le crédit d'impôt est genre à 37%. Ça a été augmenté en plus récemment par le gouvernement parce qu'ils ont vu que le jeu vidéo ici, ça marche tellement bien et ça attire plein de Français ou d'autres entreprises, etc. Non, puis aussi la culture francophone du Québec, c'est un avantage pour les Français. Ils sont pas perdus s'ils parlent pas un bon anglais.
Même si l'anglais reste quand même la langue ouais. Au travail, quoi.
Ouais.
C'est justement ça. Même si les entreprises sont au Québec, il y a aussi des anglophones dans l'entreprise, et puis fatalement on va privilégier la pratique de la langue anglaise, quoi.
Et puis même malgré tout ce que les Québécois prétendent, ils massacrent quand même joyeusement le français. Donc en gros, pourquoi c'est mieux quand même en fait la vie professionnelle au Canada, en termes d'avantages, en termes de, est-ce que, je sais pas, la sécu, la retraite, ce genre de choses? Alors je sais que vous êtes jeune et que forcément vous y pensez pas. Moi qui suis plus vieux, forcément j'y pense. Donc
il y a quelque chose aussi de fondamentalement différent au Québec, c'est que il y a déjà énormément plus d'entreprises au niveau du jeu vidéo qu'en France, quoi. Mm-hmm. Donc du coup ça favorise aussi le nombre d'emplois. Donc tu peux aussi, t'as aussi vraiment le choix au niveau des entreprises grosses ou petites pour pouvoir travailler dans le jeu vidéo, quoi. Il n'y a pas que Ubisoft justement. Il y a aussi Behavior qui travaille notamment sur Star Citizen, Eidos Montréal qui a annoncé son nouveau Deus Ex, plus après tous les indés qui font des jeux vraiment vraiment cool, quoi. Et après donc là je parle en plus juste de Montréal, mais à Québec il y a encore Ubisoft, il y a Binox qui avait été racheté par Activision, il y a vraiment vraiment le choix, quoi. Et déjà rien que ça permet de pouvoir travailler un peu où on veut, quoi. Donc ça c'est cool, quoi.
Alors même s'il y a le choix, je me permets de rebondir avec une question de XHD, je crois que c'est la première fois qu'il écoute le Player Club.
Ah, c'est un petit nouveau, ouais, lui.
Ouais, petit nouveau qu'on salue, évidemment. Niveau emploi jeux vidéo, alors certes, tu as dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'offres, mais est-ce que c'est pas bouché à force? Canada accueillante pour l'industrie, ça fait un moment qu'on l'entend, est-ce que justement, à force, c'est pas un peu pourvu partout, et c'est pas comme en France, justement, où tout est bouché?
Non. Moi, de mon côté à Québec, Ubisoft a investi, je crois, quelque chose comme 30 millions dans leur bureau à Québec. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est eux qui développent le prochain Assassin's Creed.
Ouais.
Et ils recrutent énormément de gens. Ils recrutent ressources humaines, ils recrutent des animateurs, ils recrutent des testeurs, des playtesteurs aussi. Donc ouais, il y a du job même. Il y a un autre studio, je sais pas si Antoine l'a cité, c'était Frima.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Qui fait des jeux mobiles, jeux Facebook, etc. Ils ont sorti un jeu sur Xbox One, Free to Play, je pense, Charlie, ça s'appelle. Qui eux, ils ont fait, ils ont investi 7 millions. Ils s'agrandissent. En plus, tous ces studios sont dans le même quartier. C'est le quartier Saint-Roch. Donc ça, il y a une attirance des talents du monde entier, etc.
C'est un peu la Silicon Valley de.
Ouais.
Du Canada.
C'est ça.
Alors justement, comment ça se fait qu'il y a un tel rayonnement de ça et du Japon, et le Canada apparemment il y a une vraie puissance créative, et pourquoi on entend finalement si peu parler?
Typiquement là, c'est ce que j'essaye de faire moi avec la maison d'édition, avec donc je me fais un peu de pub là, t'as vu ça, ni vu ni connu.
Vas-y.
Parce que justement, je veux faire un, enfin, je suis en train de finir le premier numéro du MOOC que après j'ai appelé aussi MOOC QC à la fin pour rappeler le Québec, où je vais parler justement que de l'industrie à Montréal et que du jeu vidéo tel qu'il est fait et tel qu'il est ressenti à Montréal et au Québec. Parce que c'est vrai, t'as complètement raison, il se passe vraiment énormément de choses et pourtant on en parle presque jamais. Pourtant, on connaît les jeux qui sont faits à Montréal. On sait les événements qui se déroulent au Québec. Et pourtant, ça reste peu étendu. Mais alors, pourquoi ça c'est une très bonne question. Et enfin, j'ai posé la question aussi pareil à droite à gauche. Et c'est pour l'instant, c'est un peu. Enfin, ça reste une interrogation. On ne sait pas pourquoi. Enfin, ça reste, parce que après, il y a aussi quelque chose, c'est que toutes les entreprises qui sont là, la plupart en tout cas, ça reste des entreprises qui viennent d'ailleurs en fait. Quoi. Ubisoft est français, Eidos c'est anglais à la base, il y a Square Enix aussi. Enfin, du coup, ça c'est pas des entreprises québécoises et on va peut-être moins en parler. On va parler juste du groupe qui est là à la base et pas forcément du fait qu'ils sont installés au Québec. Quoi.
Alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais est-ce que finalement, c'est pas un manque d'identité peut-être du pays? Parce que finalement, quand on parle du Canada, alors je vais y aller avec mes gros sabots, mais ça évoque quoi? Ça évoque les caribous, Céline Dion, les bûcherons, mais la neige, comme tu le disais, mais ça évoque pas plus de choses finalement à nous, pauvres Français de la métropole. Donc, est-ce que finalement, le problème est pas là? Et est-ce que l'autre problème, c'est pas aussi le fait d'être voisin avec les États-Unis, qui eux, c'est la machine de guerre au niveau culturel? Est-ce que c'est pas ça finalement le problème du Canada? C'est de pas pouvoir vraiment marquer son identité.
Je pense que ça joue forcément, parce que sinon je pense qu'on en parlerait plus quoi. Mais oui, c'est ça. Je pense que la proximité avec les États-Unis, où là on va parler de toutes les grosses entreprises californiennes, Naughty Dog, etc. Du coup, le Canada va rester un peu en retrait, pourtant en plus de l'autre côté du pays, là à Vancouver, c'est là où tous les jeux de sport d'Electronic Arts sont développés. Et pareil, on le sait généralement pas. On se dit c'est la grosse machine Electronic Arts qui va sortir le prochain FIFA et puis le prochain NHL et tout ça. Et pourtant tout ça s'est développé au Canada aussi. Après, c'est parce que aussi par exemple au niveau de la presse, parce que je m'étais renseigné sur le sujet, il y a par exemple eu que très 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 peu de magazines à l'époque des années 90 et tout ça pour parler de l'industrie jeux vidéo, mais parce que justement tout ce qui était là, que ce soit anglophone ou francophone, ça venait des États-Unis ou de la France quoi. D'accord. Donc du coup, on parlait de choses françaises, de choses américaines, mais le Québec ou le Canada à ma connaissance, n'a jamais été mis en avant. Quoi.
Alors, oui, excuse-moi, vas-y Nicolas.
Il faut que les gens sachent que les jeux d'Activision sont développés ici. Par exemple, je peux dire que Binox a développé Duck Dynasty, mais ça, on s'en fout parce que le jeu est mauvais. Non, mais c'est ça, oui. Il y a quand même des gros jeux qui sont développés ici. Binox développe le Skylander quand même. C'est pas une franchise.
Voilà, c'est pas une petite.
Alors,
licence,
si je dis pas de bêtises, ils développent Skylanders pour les versions mobiles, Binox.
Non.
Ah bon?
C'est next gen. En fait,
Parce que les versions portables, hein, pas mobile,
en fait,
pardon.
Le développement de Skylander, c'est un peu comme le développement de Call of Duty. Ils vont, comme ils en développent un par an,
ils alternent les deux studios.
Les studios, en fait, c'est Vicarious Vision et le deuxième, je m'en souviens plus.
Toys for Bob.
C'est ça. Toys for Bob a fait le dernier et Binox, en fait, s'occupe du développement pour d'autres consoles, aussi mobiles, mais aussi PS4, Xbox One et tout. Donc, ils font quand même des Skylander, mais Binox, ils sont connus principalement aussi pour faire les licences les licences de films en fait. The Amazing Spider-Man, Transformers et tout. Bon, c'est des jeux évidemment un peu moins reluisants, mais voilà quoi.
Ok, très bien. Alors sur Twitter, évidemment, Twitter est en feu parce que j'ai fait beaucoup de clichés sur le Canada.
Pas.
Donc je m'excuse parce que j'en ai oublié aussi au passage. Tom Dandy me corrige, la poutine, le film Crazy, le hockey, la bière. Voilà, évidemment, j'avais oublié tout ça. Et le fameux réalisateur dont j'ai déjà oublié le nom avec ses petites frisouilles sur la tête, là, Xavier Dolan.
Ouais, Fleur
nous dit que culturellement les Québécois ne sont pas très vantards, ça joue probablement aussi.
Ouais,
effectivement,
elle a complètement raison.
Comparé aux Américains et aux Européens et surtout aux Français, ça doit effectivement jouer. Une petite question de Laurent Segaria qui demande: Next Level Games, développeur canadien ayant collaboré avec Nintendo sur Luigi's Mansion 2, est-il un studio connu là-bas?
Pas trop, enfin moi je connais pas trop. Là, justement, je les ai découverts lors des CGA, les Canadian Video Game Awards. Mm-hmm. Donc un show qui a lieu en fin d'année pour récompenser les meilleurs jeux faits au Canada. Et là, c'est là je les ai connus parce qu'ils ont gagné un prix pour justement Luigi's Mansion 2.
Mm-hmm. Qui est un jeu très très sympa d'ailleurs au passage.
Oui, tout à fait. Tout à
même
fait.
Si mais... j'ai préféré le premier.
Mais après, je sais pas s'ils sont plus connus que ça. Je sais pas quels autres jeux ils ont fait, par exemple. Et je sais même pas où ils sont situés.
Mais, d'accord. Chitune ajoute: allez bosser là-bas. Ils bossent avec les producteurs les plus exigeants du monde. Est-ce qu'il y a une vraie exigence canadienne au niveau qualitatif? Est-ce que c'est plus, je sais pas. Est-ce que même c'est dans la culture d'entreprise, j'allais dire, là-bas, où t'as vraiment l'effort au travail, ce genre de choses, un peu comme au Japon, finalement.
Les gens sont des bosseurs, ici. C'est... Chaque fois que je vais au QA, je rencontre que des gens... Bah, on peut déconner entre personnes civilisées, mais au fond, ils restent très sérieux, ils sont des meneurs, ils savent chercher les bugs, etc. Donc, ouais, non, c'est des bons.
Ah oui, c'est vraiment à l'opposé de l'image qu'on pourrait croire du Canadien débonnaire, tranquillou.
Ils sont sérieux.
Ils
s'énervent rarement. Ça fait 2-3 ans que je suis ici, j'en ai jamais vu un s'énerver. Tous les Québécois sont gentils, ils sont tout beaux.
Non mais les pauvres, s'ils arrivent dans le métro à Paris, mais les pauvres, ils doivent hurler, enfin ils doivent ou pleurer, ou déprimer.
Ils,
mais
ils sont choqués, ouais. En général, ils sont choqués quand ils voient ça. Mais c'est mais après, enfin moi j'ai vu des Québécois s'énerver aussi, mais c'est après justement c'est un peu moins violent, ouais, que ce qu'on pourrait penser. Mais pour revenir à ta question sur la culture d'entreprise, et comme justement dit Nicolas, oui, c'est des bosseurs. Pour avoir justement, quand je travaillais à Eidos par exemple, donc en QA aussi, on avait enfin, il fallait des fois qu'on reste tard le soir et tout ça, et puis en général, tout le monde est motivé pour le faire. Voilà, c'est enfin, il n'y a pas justement qu'en France où on va travailler tard, c'est ici aussi, ça va être le cas quoi.
Vous êtes payé ou pas au moins?
Oui.
Bah ça dépend des entreprises, hein, justement. C'est toutes les entreprises qui
l'arnaque
vont payer
des heures supplémentaires jusqu'à l'autre bout de l'Atlantique.
Mais
quelle horreur!
Quand on te les paye pas après, c'est quand tu vas te les redonner en jour de congé, quoi.
Ouais, bah quand okay. Tu bosses dans une bonne entreprise. Sur Twitter, complément d'information sur Next Level Games par Chitune et Lieutenant Gouldo. Super Mario Strikers, c'est aussi Next Level Games sur Wii, donc le jeu de foot de Mario. Okay. Et oui, il y a aussi des Québécois qui s'énervent. On pense évidemment à Jean-Marc Généreux dans Danse avec les Stars, par exemple. Next Level Games a aussi fait le Punch-Out sur Wii, d'ailleurs, voilà. 30 minutes toujours. Aucun mauvais accent québécois. Eddie B qui nous dit Monique Duterte, j'ai failli lancer un petit tabarnak, mais je ne le ferai pas.
Tu le fais bien, mais tu le fais bien.
Écoute, je me concentrerai, je ferai un test pendant la pause musicale et je verrai si je peux tenir à un truc un petit peu comme ça, tabarnak, tu verras. Tzitzanek. On parle beaucoup du Canada, mais on va parler un petit peu de la France. Est-ce que vraiment en France, je sais pas si vous avez des potes, est-ce que vous en parlez, tout ça qui bosse dans le même milieu, est-ce que c'est vraiment si difficile que ça, niveau emploi, est-ce que c'est vraiment le cauchemar quand on veut bosser dans les jeux vidéo en France?
J'en ai pas trouvé beaucoup. Bah en fait, ce que j'ai voulu, en fait, en attendant mon visa canadien, j'ai voulu faire une année, j'ai voulu me lancer dans des études en rapport un peu avec le jeu vidéo, mais sauf que ça se trouve dans des écoles privées et que c'est des prix absurdes quoi. C'est juste pour 4 mois d'études. Tu peux avoir les mêmes cours ici dans une université publique. Le prix est un peu plus raisonnable. C'est encore cher, mais c'est encore raisonnable. Mais c'est difficile en France de trouver des jobs dans le jeu vidéo. Ici, comparé à ici surtout. Ici, Binox embauche genre 300 personnes chaque été juste pour tester. Et ils te demandent vraiment pas de background. Si t'as déjà joué à un jeu vidéo et que tu sais rentrer deux, trois textes dans un fichier Excel, t'es bon.
Oh là là. Ah oui, c'est très différent par rapport à la France où, comme tu le disais Antoine, on te demande effectivement de l'expérience pour un premier job, ce qui est toujours très très sympa.
Oui, voilà,
en étant évidemment payé comme un junior, donc comme un mec qui vient juste débarquer. Et justement, ouais. Niveau salaire, comment ça se passe là-bas? Est-ce que vous pensez que c'est mieux ou c'est équivalent?
Enfin, dans les grosses entreprises, en tout cas, ça va être fatalement mieux parce que, comme justement le disait Nicolas, il y a les crédits d'impôt et les crédits d'impôt, il y a une partie du crédit d'impôt qui va servir en fait à payer les salaires des employés. Donc, c'est-à-dire que le patron d'un grand studio comme Eidos ou normalement Eidos, mais aussi Ubisoft ou Warner aussi, par exemple Warner qui ont un gros studio ici en plein centre-ville, le gouvernement va payer une partie des salaires des employés, donc du coup ça va permettre de payer les employés un peu plus quoi, et ça joue toujours aussi quoi, ça fait toujours plaisir de voir que ton travail est récompensé à sa juste valeur quoi. Là où en France tu seras payé forcément un peu moins, donc ça motive aussi à bouger quoi.
Sans parler du comment dire, je cherche le nom du le coût de la vie en gros, le pouvoir d'achat. Est-ce que là-bas finalement aussi c'est pas en plus moins cher de vivre tout ce qui est alimentation, logement, genre de choses, les sorties
Pour Montréal, pour une grande ville justement, parce qu'il y a quand même, je sais même plus combien d'habitants il y a, mais il y en a quand même pas mal. Les loyers, par exemple, vont être beaucoup moins chers, puis ça va être aussi beaucoup plus simple de louer un appartement. Par exemple, j'étais en plein centre il y a 2 ans, et vraiment à côté du métro. Et tout ça, je payais 1100 dollars pour un grand appart. Donc ici, c'est un peu compliqué parce que donc ici, tu sais, les apparts, c'est des 4 demi, des 3 demi et tout ça quoi, parce qu'ils comptent la salle de bain comme une demi pièce. Mais du coup, ça faisait deux chambres, un grand salon, une cuisine, une salle de bain pour justement l'équivalent de peut-être. Pour ce prix-là, je pense à Paris, pour 800 euros à Paris, t'as une chambre de bonne, quoi, peut-être, ou quelque chose comme ça, quoi.
Et donc là, pour le même prix, tu as 2 chambres, 2 machins et tout.
Voilà, c'est ça. Et t'es en plein centre-ville, à côté de tous les bons restos et tout, dans le quartier latin de la ville, quoi. Voilà,
c'est, d'abord, ça, je c'est pleure cool. Et après, je fais ma valise. Fleur Tempère sur Twitter, quand même, faut pas rêver non plus avoir un poste sans expérience. C'est possible dans le QA, beaucoup plus dur en dehors de ça. Évidemment, on imagine pour les postes beaucoup plus élevés qui demandent ce genre de choses. C'est plus compliqué.
Oui.
Mais je trouve quand même, désolé de te couper,
non,
mais
vas-y.
Juste pour réagir par rapport à ça. En France, j'avais voulu faire un stage en QA, ils m'avaient pas pris parce qu'ils avaient préféré choisir quelqu'un qui avait de l'expérience, quoi. Et c'était un stage.
Ah, mais même les stages donc, en France, les stagiaires, il faut au moins que t'aies d'expérience pour faire un stage en France. Hein.
Alors que ici, je suis arrivé avec un tout petit peu d'expérience, juste avec ma formation en fait, quoi. Et j'ai pu tout de suite faire du test, quoi. Mais après, c'est vrai que, ce qu'elle dit après, c'est vrai aussi, quoi. Justement, on peut pas. Enfin, c'est vrai, faut pas venir ici sans expérience et puis croire qu'on va devenir un producteur, un game designer ou quoi que ce soit, quoi. Mais au moins, on va pouvoir mettre un pied, c'est ça que j'ai aimé, c'est que au moins on va pouvoir mettre un pied dans l'industrie et après monter à partir de là, quoi. Alors que même faire ça en France, c'est plus compliqué, quoi.
Alors avant de poursuivre, je vous propose de vous détendre un petit peu avec une petite pause musicale consacrée à l'excellentissime Mario Kart, car vous n'êtes pas le sans savoir, le 23, c'est-à-dire dans 3 jours actuellement, puisque nous sommes en direct et nous sommes le 20, il y aura le DLC, le deuxième DLC de Mario Kart 8 sur la Wii U, avec le 200cc, 8 nouvelles courses, voilà, 2 nouvelles coupes, je me perds, 3 personnages dont Bowser squelette. Tout ça, c'est génial, j'ai vraiment hâte d'y jouer, donc je vous propose des petits remixes d'Aspic, de la Route Ruban, qui sera d'ailleurs dans ce nouveau DLC, et de Koopa Beach, c'est tout de suite dans le Player Club.
De 21h à 22h, le Player Club.
Maudit français, on a réussi à faire l'accent québécois durant toute la pause. C'est très très compliqué. On part vers l'accent du Nord, on part vers l'accent allemand, mais l'accent québécois est très très dur à tenir en lui-même. Vous pouvez bien sûr toujours réagir et faire des blagues envers les Québécois grâce au hashtag le Player Club.
Ne le faites pas.
Vous pouvez aussi critiquer ce DLC de Mario Kart 8 qui sera peut-être merdique, on ne sait pas vu qu'il n'est pas encore sorti. Nous saurons bien assez tôt dans 3 jours, comme je vous le disais. Alors, une autre petite question. Est-ce que finalement, avec ce crédit d'impôt qui a failli être remis en cause, je crois qu'il a été prolongé, est-ce que c'est toujours, en fait, est-ce que le Canada, c'est toujours un petit peu l'Eldorado pour l'industrie ou plus vraiment trop maintenant?
Oui.
Toujours.
Et y a toujours aussi ce phénomène d'aspiration des cerveaux, comme on dit à l'époque, tout le monde voulait partir au Canada.
Ouais. Non, c'est ça. C'est le fait d'avoir une masse critique de studios de jeux vidéo dans le même endroit, comme ça, ça attire de nouveaux travailleurs. Et y a un bon exemple aussi que j'ai pas cité. Larian Studio, je sais pas si vous avez entendu parler, c'est développé Divinity Original Sin. Qui vont ouvrir une filiale à Québec avec, je crois, 40 personnes. Non, 4 personnes, 10, je sais plus. Mais non, c'est ça. Ça attire du monde encore. Et oui, voilà.
Donc, ça attire forcément du monde. Hein, parce qu'il y a. Puis en plus, pas que dans le jeu vidéo. Hein, parce qu'après, il y a aussi plein d'autres entreprises dans d'autres domaines qui font la même chose. Et ça attire du monde des quatre coins de la planète, parce que Montréal, pour revenir justement sur la ville de Montréal, c'est que c'est aussi une ville énormément cosmopolite, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui ennuie un peu les Québécois, c'est que les Québécois sont de moins en moins nombreux à Montréal. Par exemple, à Montréal, il faut savoir qu'on parle plus anglais que français. T'sais, un tout petit peu plus, tu vois, mais t'sais, genre 51% français, puis 51% anglais, puis 49% français, quoi.
D'accord. Mais est-ce que finalement, est-ce que ça se ressent aussi ce côté cosmopolite dans les entreprises de jeux vidéo? Est-ce qu'il y a des profils qui viennent de partout?
Oui,
ça vient vraiment de partout. Bah, typiquement, je sais pas si tu te souviens, dans le premier Assassin's Creed, à partir du premier Assassin's Creed, où c'était écrit, ce jeu est fait par une communauté pluriculturelle, ou donc un message que Patrice Desilets avait placé ici, et c'est complètement vrai, hein. Il y a des gens qui viennent de partout, quoi. Et c'est ça justement aussi qui fait la renommée du jeu vidéo québécois, c'est que il est pas fait par exemple aux États-Unis, ça va peut-être être une majorité d'Américains, même si ça se vérifie de moins en moins, mais là c'est vraiment il n'y a pas une identité québécoise du jeu vidéo dans une entreprise. Ça va être vraiment des gens de tout autour du monde, quoi.
C'est juste la preuve. L'été dernier, il y avait un Suédois à côté de moi dans mon équipe du QA. D'accord. Qui parlait très bien français.
Par moment, t'as des petites pointes d'accent québécois, j'ai l'impression.
Non, c'est faux.
Ah si, je sens, il est en train de naître en toi. Alors justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, mon cher Antoine. Là, je vais me placer un petit peu du côté chauvin, car je suis français. Mais est-ce que justement, donc je pense notamment à Ubisoft, est-ce que le fait de s'expatrier comme ça au Canada, est-ce que l'américanisation des méthodes... Attention, un terme que j'ai écrit sur mon conducteur, enfin que Inks a écrit pour moi. Est-ce que l'américanisation des méthodes n'est-elle pas un frein à une certaine French touch des entreprises expatriées? Je lis la phrase telle quelle parce qu'elle est tellement belle que je voulais vraiment la lire telle quelle.
Après, une version plus simplifiée.
Merci Inks.
Non mais la question est très très intéressante et je voulais pas la déformuler pour la rendre moins belle.
Elle repose là.
L'américanisation des méthodes n'est-elle pas un frein à une certaine French touch des entreprises exploitées? J'ai l'impression d'être le présentateur de C'est dans l'air, là, qui lit les questions SMS, en fait, tu sais. Donc, alors, votre avis sur la question, s'il vous plaît. Odon Vallée.
L'américanisation des méthodes de travail, c'est vrai qu'après...
Est-ce que finalement, il y a cette culture américaine, puisque le Canada c'est quand même en Amérique du Nord, est-ce que ça rejaillit par rapport aux États-Unis? Est-ce que est-ce qu'on perd un petit peu ce côté, cette French touch, comme on dit, l'esprit un petit peu indé, comme on trouvait un petit peu dans Rayman, enfin ce côté un petit peu ce style un petit peu différent en fait qu'on avait avant?
Oui, parce qu'en plus là c'est on parle de jeux qui mobilisent des centaines et des centaines de personnes, donc Splinter Cell, Assassin's Creed, un peu avant Prince of Persia, typiquement c'est des jeux qui n'auraient pas pu être faits en France par exemple, parce qu'il fallait vraiment avoir une masse de gens énorme, avoir des méthodes de travail un peu différentes, donc typiquement pas les 35 heures ou les 39 heures, quoi.
Cette critique facile envers Martine Aubry, je suis choqué, quoi.
Et après, je sais plus ce que je voulais dire, ça y est, j'ai perdu.
Il fallait plein de gens et puis surtout pas les 35 heures.
Ça aide pas, quoi, disons, mais après ça c'est propre aux jeux vidéo, parce que ça c'est un peu partout autour du monde, mais c'est plus facile à faire ici parce que justement il n'y a pas une loi qui dit qu'il faut faire 35 heures ou 39 heures, quoi.
Le fameux rush de la fin de développement.
Exactement.
Où tout le monde est en train de faire un burn-out et que les gens en ont marre et après ils se font virer en plus, donc c'est pas évident. Effectivement, c'est plus sympa au Canada quand il n'y a pas les 35 heures. Aucun parti pris, évidemment, dans mon discours. Alors, le marché du travail est-il réellement florissant au Canada ou est-ce que c'est une illusion entretenue, un petit peu une espèce de vision chimérique de l'ailleurs en quelque sorte, ou est-ce que le chômage est assez bas au Canada et qu'on peut trouver relativement facilement du travail?
Le chômage est vachement bas ici.
Combien de pourcents si tu as les informations?
Je vais dire 5%, mais c'est peut-être des conneries.
Je sais pas exactement non plus, mais c'est vrai que ça reste assez bas. Et malheureusement pour nous, le Québec est quand même la plus mauvaise économie du Canada.
Bravo.
Mais ça reste
passe mieux qu'en France malgré tout.
Bah voilà, ça passe mieux parce qu'il y a moins de monde aussi, quoi. Le Québec, c'est quand même trois fois la France avec quasiment 10 fois moins de personnes. Donc du coup, ça reste. Enfin, il y a quand même du boulot. On peut trouver. Puis après, on peut justement sortir du Québec pour aller voir ce qui se fait ailleurs. La forte présence de studios fait que on va fatalement finir par trouver quelque chose, quoi. Donc c'est ça qui est motivant aussi, quoi.
Mais est-ce que vous, du coup, enfin, si vous voulez continuer poursuivre dans cette voie, est-ce que vous pensez que c'est assez facile même d'évoluer, de pouvoir explorer un petit peu différentes facettes de la production d'un jeu vidéo?
Si tu passes genre 3-4 années à pas faire de l'animation 3D, ça devient une expérience, ça devient un argument à mettre sur ton CV pour être embauché plus haut dans les boîtes de jeux vidéo. Même aussi en étant testeur, si tu fais testeur pendant quelques années, à un moment tu vas prendre du grade et devenir chef de groupe. Tu peux même devenir traducteur
si tu es
vraiment bon en anglais. Il y a plein de moyens d'évoluer.
Oui, c'est ça. Et puis même si c'est donc ça, c'est j'ai remarqué ça quand j'ai travaillé à Eidos. À l'intérieur d'une entreprise, ça va quand même être très concurrentiel, tu vois. Il y a beaucoup de monde qui vont vouloir faire devenir game designer, par exemple. Mais ça reste déjà, d'une part, ça reste bon enfant, et puis après, enfin, ça te force à t'améliorer. Et puis, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que on te donne ces opportunités aussi. On va te faire participer à la création d'outils pour aider les processus de travail, ce genre de choses, quoi. Et du coup, ça te motive dans ton travail, ça te motive à t'améliorer, à dépasser tes limites un peu, et ça, c'est quand même vachement cool, quoi.
Et vous, dans vos parcours personnels, alors peut-être moins toi, Nicolas, vu que toi, tu voudrais plus t'orienter vers la réalisation, mais peut-être toi, Antoine, est-ce qu'il y a une branche dans la production de jeux vidéo qui t'intéresserait spécifiquement?
J'avais fait des études de game design, donc typiquement c'est ça qui m'intéressait vraiment. Mais après j'aime aussi beaucoup écrire, donc c'est pour ça que je suis parti dans le challenge de la création d'une maison d'édition. Mais typiquement la conception de jeu, après devenir chef d'équipe aussi, parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'on te donne aussi facilement et rapidement des nouvelles tâches, faire un peu de management justement pour te montrer ce que c'est. Donc c'est vraiment vraiment cool de pouvoir découvrir autant de choses aussi vite, quoi.
Donc vous avez vraiment l'impression que c'est beaucoup plus facile d'apprendre et que c'est peut-être moins cloisonné?
Vas-y.
Ok, parce que après je reviens toujours à la même chose, mais comme il y a énormément d'entreprises et que ces entreprises en plus sont vraiment grandes, tu vas pouvoir explorer différentes choses, pouvoir t'orienter vers différents métiers assez rapidement, et justement ça joue aussi. Ouais.
Vous voulez ajouter quelque chose, Nicolas?
Non, l'apprentissage est vachement facile. Si t'étudies dans les animations Flash, 3D, les logiciels. Bon, moi, dans mon cas, c'est Photoshop, After Effects. Mais moi, ça peut aider pour faire du montage de trailer, on sait jamais. Mais c'est l'éducation est super bonne ici. C'est mon point de vue. Ouais.
D'accord. Alors, je vais passer par Twitter un petit peu pour voir les questions que les gens se posent. N'hésitez pas, d'ailleurs, avec le hashtag LePlayerClub, je vais les lire. Nous avons le lieutenant Gouldo qui demande pour savoir est-ce qu'il y a des écoles d'art ou de jeux vidéo qui acceptent des candidatures au Canada quand on vient de France. Est-ce que vous savez, est-ce que nous, donc tu le disais, il y a l'ISART, il y a Supinfo Game, il y a pas mal d'écoles en France qui sont assez connues. Est-ce qu'il y en a aussi au Canada qui sont pas mal renommées?
Ouais, bah il y a ISART au Canada par exemple.
Ah, donc, y a une branche au Canada.
À Montréal, ouais, ils ont une branche ici. Par contre, je crois pas que c'est les mêmes choses qu'en France, mais enfin, faut juste aller sur le site pour vérifier. Mais après, il y a énormément d'autres formations à l'université publique où tu vas pouvoir faire des études en rapport avec le jeu vidéo. Là, par exemple, il y a le l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, qui a ouvert une branche en communication spécialisée dans le jeu vidéo, donc vraiment parler du marketing en jeu vidéo. Mais après, il va y avoir des écoles spécialisées, mais qui seront pas aussi chères, je pense, qu'en France, pour apprendre justement le game design, l'animation 3D, la programmation. Enfin, il y a vraiment énormément d'opportunités, et je pense qu'il faut en profiter maintenant, parce que de ce que je sais, les frais pour les étudiants français vont bientôt être augmentés.
Ouais. Ah, pour les étudiants de premier cycle.
Ouais. Il me semble. Donc, si vous voulez le faire, faites-le maintenant.
C'est ça. Mais... Non, et à l'université, je rebondis là-dessus. Mm-hmm. À l'université Laval, là où je suis, ils donnent à peu près les mêmes formations. Je fais le certificat en arts et sciences de l'animation. Ils t'apprennent la méthodologie pour comment vendre un jeu vidéo, faire un game design document. C'est-à-dire, tu inventes un jeu vidéo, un truc mobile, n'importe quoi, tu le mets en document, le gameplay, tu te dis ce que ça va être, etc. Puis tu envoies au prof, puis tu le notes là-dessus. T'apprends l'histoire du jeu vidéo. Tout ça, c'est dans les études publiques et c'est fun, c'est fun.
Alors, autre question sur Twitter. Non, je voulais rebondir. Enfin, tu disais un truc assez intéressant, Antoine. C'est que, en fait, tu as vraiment des formations jeux vidéo, mais à l'université classique. Donc, en dehors des écoles, en fait.
Ouais.
Ça, c'est quand même... Le cégep,
c'est l'équivalent des lycées, je veux dire ça.
C'est ça. Parce que après le secondaire, donc ici t'as le primaire, le secondaire qui s'arrête, on va dire, au milieu du lycée chez nous, je crois. Après t'as l'opportunité soit d'aller dans un cégep, soit d'aller directement à l'université. Les cégeps sont gratuits, si je dis pas de bêtises.
C'est un peu comme un lycée professionnel ou?
Non, même pas en fait. C'est parce que il y a vraiment différentes, enfin, plein de formations différentes, dont des formations dans le jeu vidéo, quoi. Donc c'est pas si spécialisé que ça, parce qu'après tu peux faire aussi des choses dans la littérature, des choses plus générales, quoi, en fait.
Ouais.
Mais donc c'est pas relégué dans autre chose comme en France. Donc ça c'est assez fou, parce qu'en France c'est vrai qu'il y a pas d'études générales dans le jeu vidéo, pas à ma connaissance, pas encore en tout cas. Donc c'est assez, je suis assez étonné et bluffé sur ce point. Je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais je pose quand même la question au cas où. Laurent Segarea se demande quelle est la personnalité canadienne la plus connue de l'industrie vidéoludique.
Oula, ouais.
Bah, il y en a Fabien.
Il y en a pas mal. Bah, Patrice Desilets, typiquement, qui a lancé la licence Assassin's Creed, et puis qui après a travaillé à THQ, puis après qui s'est fait rejeter quand c'est redevenu Ubisoft pour maintenant.
Ouais. Studio, ouais.
Tout à fait. Bah, il l'a lancé là. Ça s'appelle Panache Digital Games.
Yes.
Ils sont en train de bosser sur un jeu. On ne sait pas encore ce que c'est. Mais il y a lui, il y a Jade Raymond aussi, dont on a beaucoup parlé pendant le développement d'Assassin's Creed. Mais je sais pas s'il y a une personnalité qui sort vraiment du lot plus que ça, quoi.
Moi, je peux parler je vais pas parler des grosses personnalités, je vais parler des petits jeux indépendants vite fait. Il y a un studio qui s'appelle Bishop Games qui sort un petit jeu qui ressemble à Limbo, ça s'appelle Lightfall. Le Kickstarter va lancer bientôt. Puis t'as un autre studio, c'est vraiment deux ou trois personnes qui bossent ensemble. T'as un autre studio aussi qui a lancé un Kickstarter pour un jeu, je sais plus comment ça s'appelait. Le studio c'est Nine Dots et
Outward.
Yeah, c'est ça, exactement.
Ouais. Ouais.
Un petit RPG qui a l'air vraiment beau. Ces mecs ont du talent et ouais.
Donc alors, voilà, c'est ça. On va plus parler des studios après aussi que des personnes.
Ouais.
D'accord, très bien. Kratu nous dit, on dit des orignales ou des orignaux. Mmh. Eh bien, on dit des orignaux. Voilà. Tu le sauras. Allez, dernier petit point, un petit conseil pour ceux qui voudraient migrer. Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à ces jeunes personnes en quête de rêve canadien?
Il faut qu'ils viennent, parce que c'est bien. Bon, faut avoir des sous un petit peu quand même.
On dit que les Québécois sont très chaleureux.
Oui.
Et les Québécoises aussi.
Oui. Oui,
alors, je serais peut-être un peu plus tempéré, moi.
Ah,
t'es à Montréal, t'es non, à Montréal. Mais,
bah voilà, c'est ça. Après, c'est vraiment typique à Montréal. Dès qu'on est en région, ça change complètement, quoi.
C'est ça.
C'est que Montréal, ça se remplit de Français et les Québécois aiment pas trop ça, j'ai l'impression, quoi.
Mais, mais ils
après,
sont un peu
frileux, du coup, quoi. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai, quoi. Mais,
ah bah, c'est vraiment la couleur des Français, mais... ça, s'ils aiment pas trop les étrangers, entre guillemets, ça doit pas vous dépayser, du coup, d'habitude.
Non, mais c'est vraiment typique de Montréal, hein. Quand on est en région, c'est pas du tout la même mentalité, quoi.
D'accord. Donc c'est mieux en région, en fait.
C'est plus sympa, mais il y a moins de choses à faire après.
Ah oui, moi ça va. À Québec, y a plein de jobs, les gens sont sympas.
Oui, oui, oui.
Bon, il fait plus froid.
Mais vrai. Par exemple, si tu pars dans le Saguenay ou en Gaspésie ou
ouais,
là, comme
ouais,
ça, là voilà, c'est un peu.
C'est un peu plus chaud.
Voilà.
Ah, mais vous vendez du rêve en même temps, vous inquiétez un petit peu. Enfin,
venez, c'est bien, on est bien.
Ouais, voilà, faut aller dans les grands pôles.
N'ayez pas peur de l'hiver si vous avez une bonne doudou.
Oh,
c'est
bah,
bon.
On se réchauffe entre nous, hein. Il y a pas de problème. Hein. Les Canadiens sont aussi réputés pour ça. J'ai connu des Canadiens à la fac. il est déjà l'heure de se dire au revoir. Dites donc, les amis, hein, parce qu'il est 21h56. Ça va être bientôt passe le stick. Donc merci beaucoup, Antoine Claire Renaud de ton prénom. On te retrouve sur Twitter, c'est ACR_collection, si je dis pas de bêtises.
Ouais, tout à fait.
Alors, ta petite promo, c'est donc que tu lances donc ta maison d'édition consacrée à des MOOC de jeux vidéo, des MOOC QC.
Voilà, c'est
et
ça.
Et la maison d'édition s'appelle Book, BOOQC.
Tout à fait, ouais.
Est-ce que tu as un petit site?
Oui, édition book, donc tout attaché, .ca. On peut déjà précommander le premier MOOC, et donc justement je vous encourage tous à le faire. Et puis après on va annoncer aussi nos prochains ouvrages, donc pas tout de suite encore, mais ça va venir.
Alors ça va être quoi le premier MOOC du coup, si tu peux nous en reparler?
MOOC là, il va revenir sur un événement qui a eu lieu en février qui s'appelle Montréal joue et qui se passe dans toutes les bibliothèques de Montréal et qui met en avant le jeu vidéo et particulièrement le jeu vidéo donc d'ici avec par exemple une soirée qui était réservée aux jeux indépendants avec une trentaine de développeurs qui faisaient tester leurs jeux dont certains n'étaient pas encore finis, ils étaient vraiment en développement et donc les développeurs chercher un peu de feedback de la part des utilisateurs et donc nous ça nous permettait de regarder des jeux avant qu'ils soient disponibles et il y a eu d'autres choses comme ça, du jeu vidéo dans les musées, du jeu vidéo rétro, enfin il y a eu vraiment plein de choses et donc nous on revient dessus avec aussi une interview de la cofondatrice du festival et après plein d'autres choses aussi par rapport aux jeux vidéo d'ici quoi.
Oh, ça va être bien bien rempli. Donc est-ce qu'on peut et quand on habite en France, comment qu'on fait pour avoir tout ça alors?
Suffit d'aller sur le site et le commander. Les frais de port seront juste un tout petit peu plus élevés que pour chez nous, mais ça reste très abordable.
Alors sur Twitter, il y a Flawa qui dit, enfin je reviens du coup au petit conseil parce que ce tweet me fait beaucoup rire. En vrai, si tu te comportes pas comme un conte français qui compare tout avec la France toutes les deux secondes, ça va très bien.
Exactement, il faut juste perdre cette habitude au bout d'un moment et puis après c'est bon. Ouais.
Ah moi je pourrais jamais, hein. je suis trop bitchy pour ça. Alors Nicolas, toi on te retrouve sur Twitter à Pado_.
C'est ça.
Est-ce que tu veux de quoi veux-tu nous parler sinon faire ta publicité? C'est ton instant Warhol.
Je réalise des trucs, j'ai une chaîne Vimeo.com /npado npado. J'ai fait un court-métrage pour la fac, enfin pour mes études dans la fac, j'essaie de réaliser des clips aussi, je tourne dans des clips. Parce que ici, la scène musicale à Québec, c'est un truc de malade. Il y a des bons groupes, ça émerge.
Et tous les festivals aussi.
Ah oui, le festival d'été de Québec. Là, il faut venir à Québec pour ça aussi, parce qu'il y a des bons groupes qui viennent. Non, c'est ça. Je réalise, je monte. Ouais.
D'accord, très bien. Eh bien, merci en tout cas à vous deux d'avoir pris du temps et de votre temps, en plus en pleine journée, hein, parce qu'il est quelle heure là-bas du coup au Canada ?
4h.
Bah là, ça va être 4h. Hein.
Ah là là, il doit faire beau, il y a un beau soleil, non. Il fait super chaud.
Non,
malheureusement.
Ah bah voilà, bah c'est dommage. Hein. Ici, il fait super bon, je suis en t-shirt, ma fenêtre est ouverte et je n'ai absolument pas froid. Vous pouvez suivre l'émission Le Player Club sur Twitter, simplement @leplayerclub et radio, jeux vidéo aussi, tant qu'on y est, hein, pourquoi pas. Le Player Club est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous lundi prochain en direct chez nos partenaires de la web radio Synops Live et 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast sur Radio JV. Je sens que ça bouge beaucoup du côté de chez Alvin, c'est toi, tu es là?
Yes, 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 ça bouge beaucoup, effectivement, effectively, yes, 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 ça bouge.
C'est bientôt passe le stick, c'est ça?
Je crois que c'est passe le stick, yes, 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 it's time to go to passe le stick now.
It's time to go, bah écoute, je suis très content, c'est la première fois que je rends l'antenne et en plus c'est à toi.
Ah ouais, ça fait plaisir, n'est-ce pas, Aizant?
Bah ouais, bah méga bisous et puis à demain, hein, see you tomorrow.
À demain pour tes vénères, effectivement,
pour tes vénères,
see you, bye.
Bisous, bachi, ciao.